Bonjour à tous, de nouveau avec vous pendant une heure pour parler de sport. Aujourd'hui, au menu du foot, du rugby à 15, du rugby à 13, de la natation, du saut à la perche, de la F1, du CC Rugby, qui sera d'ailleurs au cœur de l'émission, on en parlera dans quelques minutes. Pour m'accompagner aujourd'hui, Corentin, homme aux deux casquettes, employé la semaine, chroniqueur le soir et même troisième casquette, arbitre de foot le week-end. Bonjour Corentin.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Alors, est-ce que vous avez passé un week-end sportif ?
Oui, week-end sportif, mais comme souvent par procuration, parce qu'avec la Coupe du Monde en ce moment, on passe beaucoup de temps devant la télé pour regarder les matchs.
Ah oui, le sport, on en parle, mais on n'en fait pas trop.
C'est un petit peu ça, ouais.
D'ailleurs, on rappelle que les journées de l'arbitrage auront lieu le 20 et 30 octobre, et bien sûr, il y aura une émission spéciale dédiée ces semaines-là. Il a désormais plus de participation dans cette émission que Mohamed Awas a pu avoir de carton rouge en équipe de France de rugby. Bonjour Erwan.
Bonjour, c'est un sacré palmarès que vous me donnez là.
Ah bah oui, trois émissions, deux cartons rouges pour Mohamed Awas. Quelle carrière.
Ouais, j'espère que
pour vous.
J'espère qu'il n'y en aura pas plus.
Plus pour qui de... Pour vous, pour Mohamed Awas.
Pour Mohamed Awas.
Je crois que lui, il n'est pas prêt de revenir. Au programme de 7h, on va retrouver les tops et les flops de ce week-end. Un rapide récapitulatif des sports qui ont brillé ou des sportifs qui ont brillé ou pas ce week-end. On a vu beaucoup de sport ce week-end, évidemment, et l'équipe du jour en a récolté quelques-uns pour vous. À suivre aussi un entretien en face-à-face avec Madame Lynn Malric, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne. On parlera de CC Rugby, de la Coupe du Monde, de la situation du TO13, mais aussi du projet des Dauphins du TOEC. Il sera ensuite l'heure de débattre autour d'un sujet qui anime l'actualité ces derniers jours, le retour de Stig Spierings. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour le TFC ? Rendez-vous dans quelques minutes. Et on terminera évidemment avec une analyse de match pour un petit peu vous aider à frimer autour de vos collègues et vos amis. Ça sera pour clôturer l'émission. Mais tout de suite, il est l'heure de débuter avec l'information en région. C'est l'Infosport présenté par Corinne Saint-Félix et c'est tout de suite.
L'Infosport avec Corinne Saint-Félix.
Le TO13 dans le dur, Featherstone prend sa revanche en s'imposant sur la pelouse du Toulouse Olympique.
Et ce samedi 16 septembre, le TO s'est incliné pour la première fois de la saison sur ses terres. Défaite face au leader Featherstone 16 à 29 au stade des Minimes devant plus de 2500 personnes. Le TO13 dans le dur aussi côté finance, malgré une bonne saison en championships. Le club trésiste toulousain accuse toujours un déficit significatif. Devant la menace du dépôt de bilan, Toulouse Métropole, le conseil départemental de la Haute-Garonne et le conseil régional Occitanie ont accepté de résorber à titre exceptionnel une partie du déficit. Une aide de 110 000 euros doit être votée lors du prochain conseil métropolitain.
Reconstitution d'un match de rugby à l'envol des...
À l'occasion des Journées européennes du patrimoine et de la Coupe du monde de rugby 2023, l'Envol des Pionniers a organisé dimanche après-midi une reconstitution d'un match en tenue de l'époque de l'aéropostale à Toulouse. Les joueurs ont joué avec un ballon de rugby vintage selon les règles de l'époque. Pour pousser la reconstitution au maximum, une bagarre a même éclaté sur le champ d'aviation de la piste des Géants où l'équipe Breguet affrontait l'équipe Latécoère, du nom des deux constructeurs d'avions du début du XXe siècle.
En foot, Toulouse décroche le nul à Marseille.
Oui, les Toulousains disputaient sur le terrain de Marseille leur rencontre de la cinquième journée de Ligue 1, quelques jours avant le début de la Ligue Europa. Sans victoire depuis trois matchs, les Toulousains ont poursuivi leur série hier en allant faire match nul sur la pelouse du Vélodrome face à l'Olympique de Marseille, 0 à 0. Le match a été marqué par la prestation de haute volée du portier toulousain de 18 ans, Guillaume Rest. Avec ce nouveau match nul, les Violets récupèrent un nouveau point après le match nul acquis lors de la dernière journée face à Clermont, 2 à 2, et se classent 12e avec 6 points en 5 matchs, une victoire, 3 nuls et une défaite. La prochaine rencontre du TFC sera européenne face aux Belges de l'Union Saint-Gilloise dès ce jeudi. À noter aussi une autre victoire en foot dans notre région. En Ligue 2, Rodez a battu 4 à 1 Angers.
Et ce week-end, c'était aussi la 20e édition des Randoval.
Organisé le 16 et 17 septembre, ce festival sportif fait découvrir ou redécouvrir le patrimoine du Lauragais à ses participants. Elle avait lieu cette année à Fourquevaux. Ce rendez-vous annuel permet à ses participants, adeptes de l'aspect sportif et amoureux de la nature, de venir partager le temps d'un week-end, un moment de convivialité autour des 200 km de parcours cumulés, 10 circuits dont 3 boucles pédestres, 4 circuits VTT et 2 raids multisports. En plein air, l'occasion aussi en ce week-end des Journées du patrimoine de découvrir l'histoire secrète de la commune.
D'ailleurs, vous qui êtes autour de la table, est-ce que vous avez profité de ces Journées du patrimoine ou pas du tout ?
Non, pour le coup, pas du tout. Non, j'avoue que j'ai canapé, profité de la Coupe du Monde de rugby. Oui. C'est mon péché du week-end.
C'est vrai qu'on s'est croisé au stadium ce vendredi pour Nouvelle-Zélande-Namibie. Corentin, c'est pareil, Journée du patrimoine, pas du tout.
Exactement pareil. Ouais. Ouais, j'ai pas profité des Journées du patrimoine et ça fait plusieurs années d'ailleurs.
Eh bien, on va voir si vous avez bien fait vos devoirs. Tout de suite, on retrouve les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Et on va commencer par Corentin. Tenez, quel est votre top et quel est votre flop de ce week-end ?
Alors, pour mon top, on va parler de Armand Duplantis. Je ne sais pas si tous les auditeurs le connaissent. Pourtant, ça fait 3 ans qu'il traumatise une discipline athlétique, le saut à la perche. Champion olympique, double champion du monde en salle également. Triple vainqueur de la Ligue de Diamants, c'est un petit peu le circuit où les meilleurs mondiaux en athlétisme vont s'affronter dans chaque discipline. Il a battu pour la 6e fois son propre record du monde pour atteindre la barre des 6m23 ce week-end. C'était hier soir, lors du meeting de la Ligue de Diamants d'ailleurs. Pour vous donner un ordre de comparaison, Renaud Lavillény, c'était un record à 6m16. C'est dire les sommets qu'atteint aujourd'hui Mondo Duplantis. Et mon flop, on va parler football avec nos clubs français qui, comme vous l'avez évoqué dans le flash, les Français qui sont européens n'ont pas brillé ce week-end avec le Paris Saint-Germain qui a été défait 3-2 à la maison contre Nice, Rennes et Lille qui se sont neutralisés de partout, Lens qui a perdu à domicile également contre Metz et Marseille et Toulouse qui nous ont offert une piètre bouillie de football 0-0. J'ai très très peur de voir ce que tout ça va donner sur la scène européenne cette semaine.
Erwan, vos top et vos flops, il me semble qu'il y a écho un petit peu avec celui de Corentin.
Exactement, sur le top, moi aussi j'ai pas pu passer à côté de la performance de Armand Duplantis. Mondo Duplantis, il a encore frappé, comme l'a dit Corentin, avec 6,23 mètres au saut à la perche à Eugene aux États-Unis. Il établit une nouvelle performance record en sa discipline. Ce dimanche 17 septembre, il a rebattu son propre record du monde. Et oui, vous inquiétez pas, je suis pas pris de bégaiement. Hein. C'est bien la merveilleuse réalité du Suédois qui en est à son 7e record du monde en 3 ans. Il a seulement 23 ans et il a amélioré son palmarès centimètre par centimètre. Alors on pourrait se dire que monsieur est consciencieux et qu'il veut s'améliorer sur la longueur, ne pas brûler les étapes, réfléchir avant d'agir, etc., etc. Mais la réalité, on la connaît, hein, c'est que le successeur de Renaud Lavillény, il grille tout sur son passage. L'éclair jaune en arrive même à se surpasser dès ses premières tentatives du week-end, comme ça a été le cas ce week-end pour la Ligue de Diamants, comme l'a évoqué Corentin.
Petite question avec le micro, c'est mieux. Comment il s'y est pris pour battre ce record ? Il a fait plusieurs essais ou il est arrivé du premier coup ?
Non, c'est dès le premier essai.
Donc il est arrivé, il a posé la barre à plus de 6 mètres, il a sauté, il est passé, il est parti.
À 6m23 exactement. Hein, très bien. Centimètre par centimètre depuis 3 ans maintenant.
Oui, il n'avait pas envie de passer trop de temps.
À chaque nouveau gros événement, il demande à avoir à un moment dans la soirée une barre qui est à 1 cm au-dessus de ce qu'il a fait la dernière fois. Et il passe. Voilà, tout simplement.
Et il repart.
Oui, voilà.
C'est bien, c'est court.
Dire que l'athlétisme a connu des hégémonies, Usain Bolt, etc. Mais une domination pareille, ça reste quand même sacrément rare.
Et votre flop ?
Et Bouka, en soi, la perche était pareil.
Il y a des similitudes avec l'ancien record. Quel sportif a sous-performé à vos yeux, Erwan ?
Alors, pour mon flop, ça ne va pas être tellement un sportif. Ça va être plutôt les arbitres, et plutôt même l'arbitrage de manière générale contre les Fidjiens sur les deux premiers matchs de Coupe du Monde. Voilà, du coup, je voulais évoquer la triste performance de l'arbitrage lors des deux premiers matchs des Fidjiens. Pour la première rencontre à Bordeaux, Mathieu Carlet n'a pas mis la main à la poche face aux Gallois. Pourtant, les Britanniques enchaînaient les fautes à l'orée de la surface. Alors, la volonté de ne pas tuer le match et d'entretenir le jeu, c'est louable, hein, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais ce qui devait arriver arriva, forcément, il n'a pas eu de chance. Un Fidjien commet une faute qui ne pouvait pas échapper à la biscotte, au carton jaune. Et un Fidjien, il sort pour 10 minutes et la décision, elle prend rapidement des airs d'injustice. et rebelote ce dimanche. Bah, les Iliens, ils affrontent l'Australie avec une merveilleuse victoire qui sera sûrement historique et qui peut-être leur permettra d'accéder aux quarts de finale. Mais le premier essai des Golden Green, il est présent. Je dis présent car c'est vraiment dur de dire qu'il est valable. En regardant le replay, on trouve au moins 2-3 raisons simples pour le refuser, donc bon. Et en plus, l'Irlandais Andrew Brace, il n'a donné aucun carton jaune au coéquipier de Richie Arnold. Pourtant, les Australiens ont commis pas moins de 18 fautes en 80 minutes. Comprenez ainsi que face aux Fidjiens, commettre le double de fautes qu'exigent les standards internationaux, qu'on estime généralement 10 pénalités, bah, c'est pas si important. Et les jugements, ils paraissent d'autant plus cruels quand on connaît les efforts qu'ont fait les coéquipiers de YCA pour se libérer de leur indiscipline qui était historique. C'était une des nations les plus sanctionnées jusqu'alors. Et désormais, les Fidjiens, ils sont sages, mais ils sont pas prêts d'être récompensés.
C'est la première victoire des Fidjiens depuis
1954 contre l'Australie.
Bah, ça fait 79 ans. Voilà. Donc c'est dire à quel point, si vous avez vu ce match, à quel point c'est un match historique. Non,
ça fait 69 ans.
69 ans ?
69 ans.
J'ai dit combien ?
79.
Ouais, les mathématiques, c'est pas ça, comme on peut le voir.
Et c'est la troisième victoire, parce que la première avait lieu en 1952.
Mais voilà, petit cours d'histoire.
Et vous, j'en attends votre petite sélection du week-end.
Merci de poser la question, Corentin, dites donc, tout est écrit. Moi, mon top, eh bien, écoutez, on va parler un petit peu de voiture. Alpine, la marque des Bleus, que je trouve a repris des couleurs ces derniers temps, avec une belle course d'Esteban Ocon, qui a malheureusement abandonné au 44e tour. Pardon. Il a été trahi par sa boîte de vitesse. Et l'autre, Normand, Pierre Gasly, son copain, entre guillemets, qui lui finit en 6e position. Donc bon, c'est pour l'instant pas très bien au championnat, c'est toujours loin du prochain au championnat constructeur. Mais cette équipe de France de F1, avec les deux pilotes français et cette marque française, ben, propose de belles choses en ce moment, voilà, c'est positif au vu du début de saison de Formule 1. Et mon flop, alors c'est pas vraiment un flop, c'est plutôt un flop d'encouragement, c'est les remplaçants du 15 de France qui ont joué face à l'Uruguay, qui m'ont un petit peu déçu. Alors j'ai mal au cœur de dire ça, mais les joueurs présents sur le terrain, ils ont pas montré assez de caractère face à des Uruguayens qui... Clairement, étaient morts de faim, ils avaient tout approuvé et ils ont fait un très bon match. On n'est plus sur des petits matchs amicaux où on peut se faire surprendre par des petits poussés. Là, c'est la Coupe du Monde, c'est la fête du rugby mondial. Toute la planète regarde les Bleus à chaque match, donc il faut marquer les esprits et faire preuve de force. Parce que battre l'adversaire, c'est bien, mais le faire en le respectant et avec la manière, c'est quand même bien mieux. Voilà, c'est pas vraiment un flop, c'est plutôt un flop de « Allez, hein, on met la machine en route, les gars, on n'est plus à Bourg-Pézenas avec toute l'amitié que je leur porte, on est vraiment là, en Coupe du Monde, évidemment, on est vraiment en Coupe du Monde, et donc là, il faut y aller. Voilà.
Et effectivement, même les All Blacks ont été très surpris du match de l'Uruguay, parce que comme on s'est dit, on a pu s'apercevoir lors du match à Toulouse, on était présent une bonne partie de la rédaction, même l'intégralité de la rédaction d'aujourd'hui.
Oui,
de,
Corentin, Sport, vous et moi, on était effectivement...
était présent au match Namibie-Nouvelle-Zélande à Toulouse. Et ça a été l'occasion de rencontrer pour moi Caleb Clark, qui m'a dit qu'il était très très impressionné de la performance de l'Uruguay. Voilà, avec une très belle onomatopée en anglais, donc je ne vous émettrai pas l'accent.
Ah non, c'est sûr que c'est un petit peu catastrophique. D'ailleurs, mention spéciale aux Namibiens qui ont véritablement été poussés par le stadium vendredi. C'était une belle ambiance à retrouver. Et évidemment, on continuera de parler un petit peu rugby au fur et à mesure de cette émission et surtout au long de cette Coupe du Monde. On va continuer de parler rugby tout de suite avec l'entretien, mais de Cécile Rugby, et c'est tout de suite.
Esprit Sport, le face-à-face.
En face-à-face pour ce nouveau numéro d'Esprit Sport, Madame Lynne Malric, conseillère départementale du canton de Blagnac et 5e vice-présidente Sport et Sport Santé. Bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Alors un an après notre dernier entretien et surtout en pleine Coupe du Monde de rugby à la maison, il est l'heure de mettre un petit coup de projecteur sur une création haut-garonnaise. On va commencer par le Cessy Rugby. Alors il y a plusieurs essais qui ont été faits à travers le département, notamment le 3 septembre dernier, place du Capitole. Vous qui vous êtes plié à l'exercice du Cessy Rugby l'année dernière, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement qu'est-ce que le Cessy Rugby et surtout comment se porte le Cessy Rugby un an après ?
Bah écoutez, le Cessy Rugby, c'est une volonté conjointe de plusieurs structures, avec l'Institut des Jeunes Aveugles, avec le comité départemental de rugby et la Ligue de rugby aussi, et le conseil départemental, pour développer une pratique sportive inclusive. Et comme le nom l'indique, ça s'adresse à des personnes qui sont en déficience visuelle, partielle ou totale. Mais on a souhaité aussi, comme on le veut inclusif, ce Cécy Ruby, permettre à des personnes voyantes de participer. Il suffit tout simplement de mettre un bandeau. Je l'ai testé, c'est vrai que c'est même assez difficile et que les personnes déficientes visuelles sont beaucoup plus compétentes que nous. Elles ont des sens qui se développent et c'est vrai que pratiquer le Cécy Ruby, c'est une volonté de permettre à toutes ces personnes-là d'avoir une activité physique qui peut leur plaire et qui correspond donc à une terre de rubis.
Alors c'est une pratique 100% haut-garonnaise qui a été créée donc l'année dernière. Est-ce qu'on peut dire une première mondiale ?
Alors je ne sais pas si c'est une première mondiale, je ne voudrais pas le...
Européenne en tout cas.
Voilà, c'est un développement donc haut-garonnais. Et c'est vrai que nous avons travaillé en plus avec donc un jeune ingénieur qui nous a créé un ballon spécifique qui fait un petit peu de bruit. Donc il a pris un ballon standard, il l'a dépecé et à l'intérieur il a mis, un système sonore qui permet aux déficients visuels d'entendre le ballon et donc de déployer donc tout le jeu sur un terrain. Voilà. Donc nous l'avons lancé au niveau départemental. Donc nous sommes bien sûr joints à au comité départemental du rugby. Nous sommes observés par la Fédération française de rugby pour évaluer une possibilité à terme de lancement national.
Alors de lancement national, ça va être dans quelques temps, mais dans le département et peut-être même au-delà, comment se porte le Cécy Rugby ?
Mais disons qu'il faut créer un ensemble de choses. Donc on a commencé à créer un terrain. Avec des boudins sur le côté pour que les personnes donc ne se fassent pas mal. Il y a donc des règles à créer puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de plaquage. On ne peut pas lancer le ballon parce qu'ils ne peuvent pas forcément le récupérer. Donc il faut créer des règles. Donc on a commencé donc par essayer de structurer un petit peu tout ça. On a fait une première démonstration en septembre 2022 au stade Ernest Vallon puisque le stade toulousain nous soutient aussi dans cette action. Juste donc c'était le 365 jours avant la Coupe du Monde, donc 2023, ça peut dire qu'il y a un an. On a ensuite donc fait des travaux donc sur la conception du ballon pour l'améliorer, sur la conception du terrain pour être vraiment bien dans les attentes de ces jeunes et moins jeunes. Et nous avons donc, comme je vous l'ai dit, un ballon qui est une création 100% toulousaine, 100% haut-garonnaise. Et on a créé tout ça donc en un mois à peine. Après, que vous dire sur les expérimentations. Ensuite, nous avons continué en 2022 toujours, donc en novembre. On a essayé de tester donc le Cécy Ruby avec des personnes, des jeunes en déficience visuelle et des jeunes voyants à qui on a bandé les yeux avec le collège donc Léon Blum en équipe 5 contre 5. On a fait la même chose à Blagnac avec des équipes de déficience visuelle en 7 contre 7, et c'était ouvert au public avec beaucoup de spectateurs, beaucoup de personnes déficientes visuelles, hommes et femmes, qui pouvaient être intéressées et qui venaient vraiment regarder, je vais dire, c'est un petit peu difficile, mais tester la pratique, et c'est vrai que ça a été une belle réussite.
Alors on voit qu'il y a le stade toulousain qui vous soutient, le collège Léon Blum, le club de Blagnac. Est-ce qu'il y a aussi d'autres clubs qui peut-être vous ont emboîté le pas et eux aussi ont créé leurs équipes?
Tout à fait. On a 3 clubs donc en Occitanie qui se sont lancés. On en a 2 en Haute-Garonne, Ramonville et Montaudran, et 1 à Cahors. Donc on a maintenant donc la volonté de créer des règles du jeu, former des encadrants, parce que là aussi il faut travailler dans ce sens-là. Il faut créer un brevet fédéral. Il faut élaborer des règles spécifiques. Donc comme je vous l'ai dit, pas de jeu au sol, des équipes de 7 joueurs et joueuses. Donc on est sur du mixte. Et puis une volonté après de lancer tout cela. Et comme vous l'avez dit, donc on a fait une opération de démonstration lors de l'accueil des Japonais au Capitole avec donc une démonstration de ces Cécy Ruby avec des personnes malvoyantes, mais aussi avec des personnes donc voyantes qui ont bandé les yeux. Et je vous dis, c'est vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié de participer avec eux et on était beaucoup plus perdus que eux qui se sentaient vraiment à leur aise dans ce terrain. Et donc, j'appelle toutes les personnes qui sont jeunes et moins jeunes, qui seraient malvoyantes ou déficientes visuelles et qui auraient envie de pratiquer le rugby à s'initier parce que c'est vraiment une belle ambiance et les valeurs du rugby, on les retrouve toutes là.
Vous nous avez parlé de trois clubs, Ramonville et Montaudran pour la Haute-Garonne, mais aussi Cahors. Comment ça s'est déroulé cette création d'équipe avec le Lot?
Alors c'est sur la base du volontariat. C'est sur la base du volontariat, de l'intérêt. Donc nous on a demandé qui était intéressé, qui pouvait se lancer. Et donc Ramonville et Montaudran ont dit de suite OK, et Cahors aussi. Donc on a dit banco, puisque la Ligue de rugby Occitanie est aussi impliquée, et voilà, banco. Donc il y a d'autres clubs qui sont intéressés, on peut y aller aussi, on pourra les soutenir, les aider, leur présenter donc le CC Rugby.
Alors pour le CC Rugby, on va se prolonger un petit peu et je vais vous demander peut-être votre avis, vos ambitions. Est-ce que vous pensez qu'à terme, il y aura une ligue de CC Rugby Occitanie avec un ou deux clubs par département qui pourront peut-être s'affronter tout au long d'une année ou d'une saison?
Alors là, je n'irai pas jusque-là pour le moment. Donc pour le moment, c'est du sport amateur. Après, moi, je veux dire, ce que je souhaite vraiment au titre de l'inclusion, c'est la pratique du sport. C'est ce que nous portons au département, nos valeurs, le sport pour tous et toutes sur tous les territoires. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un maximum de clubs qui se créent et peut-être dans les clubs de rugby pour que l'inclusion soit totale. Les pratiquants de CC Rugby sont des joueurs de rugby, joueurs et joueuses de rugby, en totalité. Donc pas de club spécifique, il faut intégrer, ce serait peut-être une section dans les clubs de rugby, tout à fait.
Voilà, mais peut-être
ça,
que
ça va venir.
Peut-être qu'à terme, ça va venir. On espère en tout cas que ça va être mis en place au titre de l'inclusivité. On revient au rugby à 15. Forcément, ça n'a échappé à personne. La Coupe du Monde a commencé dans le département et en France en général. Justement, comment le département de la Haute-Garonne s'investit pendant cette Coupe du Monde?
Alors, la Haute-Garonne, c'est une terre de rugby, tout le monde le sait, et le conseil départemental s'est investi dès le début en étant partie prenante du GIP France 23 qui organise cette Coupe du Monde. Donc on est partenaire de ce GIP, on est partenaire du Stade Toulousain et on a vraiment souhaité se mobiliser financièrement, on a investi et fait après pour les actions que l'on mène avec le comité départemental, avec la Ligue de rugby, avec le rugby fauteuil aussi. On a lancé donc des actions pour toutes et tous. On soutient bien sûr les clubs professionnels, les clubs amateurs. On soutient tout ce qui peut développer la pratique du rugby donc sur notre territoire. Et puis vous n'êtes pas non plus sans savoir aussi sûrement qu'on a beaucoup de joueurs de clubs au Garonnais qui participent à la Coupe du Monde.
Ah oui.
Je crois qu'on en a une dizaine du Stade Toulousain. On a aussi donc des joueurs de Colomiers qui sont dans l'équipe du Portugal, et je crois qu'au total on en a 17 joueurs du Stade Toulousain qui sont au sein des équipes de France, Italie, Tonga, enfin, Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre, je crois qu'il y en avait même à l'Argentine. On a des joueurs donc qui jouent habituellement au Stade Toulousain et qui jouent pendant cette Coupe du Monde dans leur équipe nationale.
C'est bien, ça leur évite un trop long voyage pour jouer ces matchs de Coupe du Monde.
Voilà, tout à fait, si bon, ils connaissent. Alors c'est vrai que nous, on a aussi donc des bourses Jeunes Espoirs en direction donc des sportifs qui permettent aux joueurs donc d'être financés. Et donc juste pour revenir sur le parasport, on a des bourses donc qui sont données à différents donc jeunes. Donc on a soutenu par exemple Jonathan Hiverna en rugby. On a donc différents jeunes qui sont soutenus. Bon, après on en a dans la natation, on en a aussi dans le cécifoot, on en a aussi au niveau de l'équipe de, donc comme je vous disais, de rugby fauteuil. Il y a aussi Mathieu Thirier, Rodolphe Jarlan, qui sont dans champion d'Europe de rugby fauteuil. Nous, on intervient à tous les niveaux, au niveau des clubs, au niveau des jeunes, pour les aider, au niveau des bourses jeunes espoirs ou des bourses ambassadeurs. On essaie de faire le maximum pour que la pratique soit vraiment au centre des clubs et l'intérêt des jeunes.
Justement, cet intérêt, est-ce que vous l'avez présenté, est-ce que vous l'avez porté, notamment aux Japonais, puisque le dimanche 3 septembre, vous étiez présente à l'occasion de la soirée de réception de l'équipe nationale du Japon. Est-ce que vous avez pu peut-être présenter rapidement le CC Rugby aux Japonais?
Alors, je leur en ai un petit peu parlé, mais vous savez, cette soirée était quand même une soirée festive où les Japonais étaient très sollicités. J'ai pu échanger avec le capitaine du Japon, quelques minutes et lui en parler parce qu'il m'a posé la question. Et donc, nous devons après éventuellement avoir un retour et peut-être donc un échange plus complet à l'avenir.
Alors, on reparle évidemment de cette implication du département dans cette Coupe du Monde de rugby. Au cœur de la mêlée, est-ce que ça vous parle, cette exposition photo? Je présume que oui.
Bien sûr, bien sûr. C'est nous aussi qui l'avons portée et nous souhaitons mettre en valeur justement tous ces jeunes hommes, femmes, entraîneurs, joueurs, bénévoles dans le domaine du rugby qui font beaucoup justement pour ce sport. Et nous avons fait donc une exposition de 15 portraits que nous avons exposés tout d'abord sur les grilles du département pour que chacun et chacune puisse les admirer en passant devant. Mais nous les avons aussi transportés au stadium puisque nous avons un stand lors des 5 matchs de la Coupe du Monde. Et vous pouvez aussi, donc, si vous avez la chance d'être à l'intérieur du stadium pour assister aux matchs, les différents matchs qui ont lieu, les 5, vous pouvez admirer aussi cette exposition qui met en valeur nos Haut-Garonnaises et Haut-Garonnais dans le domaine du rugby.
C'est aussi disponible en version numérique sur le site du Conseil départemental.
Tout à fait. C'est aussi disponible, mais c'est peut-être un peu moins... Je veux dire, c'est très bien, mais c'est vrai que les voir en grand, il y en a de très beaux posters avec l'explication des carrières, la volonté, leurs ambitions et des petits mots de chacun. Et c'est vrai que tout et tout ont vraiment l'esprit rugby.
Voilà. À court terme, ce qui va se passer pour vous, c'est une autre fête, cette fois-ci, la fête du sport scolaire qui aura lieu le 20 septembre, ce mercredi.
Oui, alors là, nous travaillons donc aussi avec, bien sûr, les collèges, puisque le conseil départemental est en charge des collèges. Nous travaillons conjointement avec l'UNSS et nous faisons la fête des collèges, donc la fête de l'UNSS, la fête du sport qui aura lieu donc... au domaine d'Ariane à Mondonville cette année. Nous allons accueillir 300 collégiens qui vont pratiquer donc le touch rugby, c'est-à-dire du rugby sans plaquage, du rugby pas dangereux pour les filles et les garçons et leur permettre justement de découvrir ou du moins de pratiquer, parce qu'on a déjà beaucoup de jeunes en collège qui pratiquent le rugby, mais peut-être inciter ceux qui ne pratiquent pas à y toucher et à regarder un petit peu. Puisque ma volonté, c'est aussi de développer le sport chez les collégiens, puisqu'on sait que les collégiens ont tendance à abandonner l'activité physique. Et vous l'avez dit, je suis en charge du sport et du sport santé. Aujourd'hui, on sait que les jeunes ont tendance donc à limiter leur pratique sportive, leur activité physique, à plutôt être avec des écrans d'ordinateur, des écrans de téléphone. Et là, c'est un enjeu de santé publique. Il faut absolument que les jeunes pratiquent à côté une activité physique. Donc, nous essayons au département, à travers donc différentes actions, de soutenir ces pratiques-là, d'encourager les jeunes à trouver leur voie dans le domaine du sport. Parce que on ne peut pas arrêter la pratique des ordinateurs, des téléphones, etc. On est tous, je dirais, un petit peu addicts à ces outils-là. Mais il faut à côté une pratique physique de sport, une activité physique. Donc on essaie, et le rugby touch donc, est aussi une façon de développer une pratique qui pourrait aller dans ce sens-là.
Et de rassurer les parents au cas où le contact de leurs enfants leur fait peur, peut-être que ça va les rassurer bien de sûr. Voir que c'est du rugby touché et non du rugby plaqué.
Voilà, tout à fait. C'est ce but-là, parce que là c'est vraiment donc de l'activité physique, ça permet aux jeunes de bouger, et puis... Le sport, c'est aussi du lien social, on se fait des copains, on se fait des amis, on pratique, on rencontre des personnes que l'on voit habituellement dans les salles de cours, mais là, on peut retrouver des amis, des voisins. Enfin, c'est vraiment le sport, enfin, moi, je veux dire, c'est vraiment une discipline, une activité, c'est magique.
Créateur de lien social, comme vous l'avez, bien dit.
Quand on est en short et en maillot, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. On est tous les mêmes, on est tous sur le terrain et on avance ensemble. C'est ça l'intérêt.
Avancer ensemble, c'est peut-être aussi l'envie du conseil départemental envers le TO13 qui subit une situation un petit peu compliquée. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur cette situation?
Oui, le TO13 donc, a subi une difficulté cette année qui avait déjà un petit peu commencé l'an dernier. Donc, il était vraiment... nécessaire donc pour éviter un dépôt de bilan en pleine saison. de soutenir le TO13, donc le département a apporté donc à ce club emblématique donc une aide de 70 000 euros l'an dernier et 70 000 euros cette année pour les soutenir, pour leur permettre de passer ce cap, et on leur souhaite donc toute la réussite qu'ils méritent au titre donc de représentant donc du rugby à 13 sur la Haute-Garonne, parce que c'est le rugby à 13, c'est aussi du rugby.
Voilà, c'est aussi du rugby, et le conseil départemental s'engage sur tous les fronts, j'ai envie de dire, après le rugby, l'inclusivité, le sport scolaire, le TO13, le département s'implique aussi sur la natation avec les Dauphins du Touareg. Alors il me semble que c'est en cours, c'est un projet encore, au niveau de l'avancement, est-ce que tout le monde est d'accord?
Alors c'est un projet, il s'agit de créer la cité de la natation sur l'île du Ramier. Je crois que tout le monde perçoit l'intérêt de cet équipement, à la fois pour le sport de haut niveau, mais aussi pour les scolaires, avec la volonté de développer le savoir nager et de permettre à chaque enfant de savoir nager le plus rapidement possible, parce qu'on voit que chaque année, il y a malheureusement des noyades. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qui, je pense, va se décanter donc en 2024. Mais bon, comme vous le savez, sur tous ces projets-là, il faut que tout le monde donc soit autour de la table, tout le monde décide, et puis il faut surtout qu'il y ait, c'est un sujet aussi juridique, c'est un sujet donc sur la structure, voir comment donc le projet va être porté, mais j'ai confiance, j'ai vraiment confiance.
Eh bien voilà, merci beaucoup Madame Lynn Malric d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes conseillère départementale du canton de Blagnac et 5e vice-présidente en charge du sport et du sport santé. Merci d'avoir été avec nous et bon courage pour tous ces projets à venir.
Au revoir.
Messieurs autour de la table, est-ce que ça vous tente d'essayer le Cessi Rugby?
Oui, pour le coup, ça peut être une expérience intéressante. Et puis surtout, on se dit que voilà, au niveau de l'inclusion, c'est quand même pas mal.
Corentin?
Oui, pareil, j'ai pu voir quelques démos à l'occasion, et c'est un sport qui a l'air très intéressant, même titre que le Cessi Foot, et qu'on soit valide ou non, ça vaut le coup, je pense, d'essayer.
Eh bien écoutez, je serais ravi de vous voir et de vous prendre en photo pour le faire partager aux auditeurs. On se retrouve dans 3 minutes, juste après Coldplay, le temps de digérer cette interview, et juste après, on débattra autour du retour d'un joueur au TFC. Tout de suite, le débat de ce numéro d'Esprit Sport avec Erwan qui nous lance un petit peu ce débat qui va, j'en suis sûr, nous entretuer.
Et oui, il n'y a pas le feu au lac, mais il y a des fumigènes à Blagnac. Le 13 septembre, vous avez peut-être vu la folle vidéo du retour de Stijn Spierings à Toulouse. Les ultras toulousains ont organisé un comité d'accueil tout feu tout flamme pour le milieu de terrain néerlandais, une communion en fanfare et un printemps pour le milieu de terrain néerlandais. Une communion en fanfare et un printemps en sanglots en juin dernier suite à un départ. Au terme de la saison 2022-2023, l'intégralité du milieu titulaire du TFC met les voiles. Vainqueur de la Coupe de France, les précieux rouages larguent les amarres et partent vers de nouveaux horizons. Brecht de Jagereux en MLS, Branko van den Boomen à l'Ajax et Stijn Spierings, le plus jeune de la bande, s'exile à Lens. Polarité différente, la jeune pousse des Pays-Bas a pris l'eau chez le néo-qualifié à la LDC. Une pré-saison de 4 matchs et 4 matchs plus tard, les Lensois n'en peuvent plus. En cause, le joueur a affiché une mine grisâtre sur le banc et une qualité discutable sur la pelouse pour ses débuts dans le Nord. Pour éviter le naufrage, il fallait remettre pied à terre. Jovial à souhait, le milieu défensif revient chez son ex pour se redorer la pilule. Et ça, les fans du TFC et le virage Brice en sont ravis.
Alors, le retour de Stijn Spierings, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour le TFC? Alors, l'histoire de ce débat, quand j'ai lancé l'idée sur un groupe WhatsApp, Corentin m'a dit « Oula, j'ai des choses à dire ». Corentin, vous avez une minute pour nous expliquer pourquoi, quel est votre avis sur ce retour? Et on a perdu Corentin, dites donc, c'est quand même assez magnifique.
Ah non, mais je lui... Voilà. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, mais pour moi, ça reste une mauvaise idée, Stijn Spierings à... au TFC.
Alors pourquoi ?
Tout d'abord parce que c'est quand même un aveu d'échec de la direction qui n'a pas été capable de remplacer sportivement un joueur qui a pesé énormément sur le jeu toulousain l'an dernier, qui n'est pas pour rien dans la remontée en Ligue 2 il y a 2 ans, qui n'est pas pour rien dans le titre de la Coupe de France qui a été remporté. C'est un des meilleurs gratteurs d'Europe de la saison passée. Beaucoup de ballons récupérés, beaucoup d'impact dans le jeu, une pointe basse comme on en fait plus beaucoup aussi dans le jeu moderne. Donc voilà, Stijn Spierings, c'était un très bon joueur qu'il ne fallait pas laisser partir, surtout gratuitement, voilà, chez un concurrent, on va dire. Je pense que Lens, même si c'est une très belle équipe, reste un concurrent du TFC qui, à mon avis, voudra jouer les premiers rôles, en tout cas au moins la première moitié de tableau dans les années à venir. Mais ça reste sportivement un atout de le faire revenir parce que c'est un prêt, parce que c'est un joueur qui connaît la maison, parce qu'il va pouvoir venir aussi renforcer un effectif qui manque de peps au milieu et qui va avoir besoin de densité avec les échéances européennes qui arrivent pour éviter de se retrouver dans un parcours comme celui du FC Nantes l'année passée qui avait joué, non pas les premiers rôles, mais qui avait quand même fait briller la France sur la scène européenne, mais qui avait dû lutter jusqu'aux dernières journées pour son maintien. Donc voilà un petit peu mon avis sur Spierings à Toulouse.
Donc pas vraiment convaincu de ce retour dans la ville rose après avoir chanté les corons. Erwan, il me semble que vous êtes à peu près du même avis.
Oui, je suis à peu près du même avis, mais c'est pas tellement le club que j'ai envie de blâmer dans cette histoire. Moi, c'est plutôt le joueur. En fait, je trouve que Stijn Spierings, il a un peu profité de la situation. Faut rappeler, donc, comme Corentin l'a dit, que c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons en Europe. Exactement, il en a récupéré 336 sur la dernière saison. Il est devant Declan Rice et Rodri. Bon, les deux, accessoirement, ils sont champions d'Europe. Declan Rice avec West Ham en Ligue Europa Conférence. Et Rodri, il a gagné une petite compétition pas très connue qui reprend cette semaine, voilà, qui s'appelle la Ligue des Champions. Donc, c'est un joueur de qualité. Ça, il n'y a aucun doute dessus. Puis même, c'est pas comme on appelle les anglo-saxons, le One Wonder Season guy. C'est-à-dire,
voilà, vous avez un accent très bien.
Mais je suis calé en anglaise. Non, blague à part. C'est pas un joueur qui est excellent juste sur une saison, puisqu'on a pu voir aussi que même sur la Ligue 2, il est monté en puissance, en fait, sur son passage au TFC. Bah, le problème, c'est qu'il a profité de cette montée en puissance un peu pour essayer de se faire bien voir auprès de tout le monde. Et quand je dis auprès de tout le monde, c'est tous ceux qui ne sont pas en Haute-Garonne. Donc, c'est-à-dire notamment au début du PSV Eindhoven chez qui il devait partir. Et puis finalement, quand le RC Lens a pointé le bout de son nez, il a un peu mis de côté le PSV Eindhoven au dernier moment, alors qu'il y avait un accord verbal. Alors, bien évidemment, un accord verbal, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, en tout cas, selon les médias, il y avait un accord verbal. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a rien de marqué sur le papier. Mais on est sur un joueur qui, dès le début du printemps, a envoyé son agent en reconnaissance dans les médias, et notamment dans le média néerlandais Vie, où son agent a dit que Stijn Spierings devrait faire un grand pas la saison prochaine, excluant complètement l'idée d'une prolongation à Toulouse. Alors oui, on peut dire que Damien Comolli, d'un côté, n'a pas fait son job en proposant pas, peut-être pas suffisamment les bons arguments.
C'est pas un bon vendeur, oui, ça on peut lui donner beaucoup de qualités, mais celui de vendre, c'est pas un atout du côté du président du club des Violets.
Exactement, mais du coup, bon vendeur, pas bon vendeur, d'accord, mais Spierings, il a pas caché son envie de départ et il a envoyé son agent.
C'est plutôt l'éthique qui vous gêne plus que son retour ou voilà. C'est, il a voulu partir, il est parti et il y a un petit côté qui a du mal à, il a du mal à assumer son départ en fait.
C'est ça. Et surtout, on se dit quand même, bon, il est resté 4 matchs à Lens. Alors je veux bien que la pré-saison ratée, les 4 matchs, d'accord, ça peut mettre un coup au moral. Mais quand même, on est sur un joueur qui prétend à jouer à la Ligue des Champions et après quelques matchs ratés, il part. Alors c'est pas le, je vais faire une comparaison qui va être un peu exagérée, c'est pas du tout du même acabit, mais il faut se rappeler que par exemple, Luka Modric, première saison
oui,
Real Madrid.
Oui, comparaison entre un joueur du TFC et un joueur du Real Madrid. Oui,
c'est pas du tout le même acabit. Mais comparaison, Luka Modric, première saison Real Madrid, il est élu pire saison, pire recrue de la décennie par les quotidiens espagnols. Il
après, c'est les quotidiens espagnols, oui, c'est aussi quelque chose de particulier.
Il faut avouer, objectivement, qu'il a fait une très mauvaise première saison. Et pourtant, après, on est sur un des milieux de terrain qui a marqué le, qui a le plus marqué l'histoire du club le plus titré d'Europe et qui, en plus, a récupéré un ballon d'or. Donc, veut dire s'avouer vaincu dans son nouveau club quand on prétend avoir un niveau Ligue des Champions après seulement 4 matchs et après revenir chez son ex, je trouve que c'est un peu osé quand même.
Oui, c'est peut-être l'histoire d'amour qui s'est mal terminée et qui revient peut-être un goût d'inachevé. Est-ce que vous pensez pas plutôt qu'avec la confiance il revient, voilà, et clairement il était pas bien du côté de Lens malgré la ferveur et tout ce qu'on peut y trouver, peut-être qu'avec plus de confiance et son niveau d'avant, peut-être qu'en fait c'est un vrai coup qu'a fait le TFC, parce que c'est un des éléments clés du titre de Coupe de France qu'a eu le TFC l'année dernière. S'il revient en confiance à son niveau, il aura peut-être les clés du milieu du TFC et du TFC, et peut-être même le brassard.
Ouais, mais les clés et la confiance, ça se gagne. Quand on est un joueur comme Spierings, et comme l'a pu...
Avec ce qu'il a fait l'année dernière, il aurait pu l'avoir.
En fait, Comolli arrive à prendre des joueurs qui surnagent à leur niveau. J'ai des Dessler, des Branco van den Boomen, des Brecht. Brecht a joué quand même un quart de finale de Ligue des Champions, oui, il me semble. Donc voilà, mais il arrive quand même globalement à prendre des joueurs qui surnagent dans les équipes dans lesquelles ils sont et dans les divisions dans lesquelles ils sont. Et donc forcément, c'est des joueurs qui ont beaucoup de confiance, naturellement. Quand, oui, si moi, je vais jouer au milieu de gamins de 6 ans au foot, je vous assure que mon niveau au foot est vraiment désastreux, mais si je vais jouer contre des enfants de 6 ans, bah, je risque de gagner. Et pourtant, c'est pas pour autant que je dois me galvaniser de confiance. Spierings, il joue au milieu de personnes qui sont pas à son niveau. Il a joué en Ligue 2, il arrive en Ligue 1, où il est, on va dire, dans le bain qui lui convient. La preuve, oui, il est resté.
Il est bien là où il est, et voilà. Il a dit que bah, ailleurs c'était peut-être plus compliqué et qu'il n'a pas envie de partir ailleurs.
Etc.
Finalement,
ouais,
ça s'est mal passé.
Exactement,
et Corentin ne veut pas non plus lui donner les clés. Corentin, vous ne voulez pas absolument...
Tout à fait. Je pense que c'est un joueur qui ne mérite pas les clés parce que c'est pas un créateur. C'est un joueur qui fait beaucoup du bien pour soulager des...
Vincent Sirot, qui est le capitaine actuel du TFC, a plus les épaules de capitaine que...
Alors, je parle pas des clés du vestiaire, je parle des clés du jeu sur le terrain. Pour moi, Siro, s'il doit être capitaine, si ça a été décidé comme ça, il vaut mieux laisser Siro, parce que de toute façon, Spierings est en prêt, il repart l'an prochain. Donc, autant essayer d'avoir de la continuité, de la stabilité, un petit peu, dans ce club qui en a grandement besoin. Ensuite, je pense que Spierings, il va s'épanouir dans un milieu qui est construit, qui est réfléchi, comme l'avait été celui du TFC, parce qu'on a beau critiquer un peu le modèle de la data, en tout cas, les joueurs qui avaient été choisis s'entendaient, parce qu'ils venaient aussi de la même région, et que ce soit des Pays-Bas ou de la Belgique, c'est quand même des joueurs qui s'entendaient très bien de par la culture qu'ils partageaient ensemble, par leur compatibilité sur le terrain également, et par le style de jeu qui a été mis en place par Montagnier, c'est-à-dire avoir un petit peu de la possession, des attaques placées, de la projection, du jeu qui était écarté sur les ailes, et aussi un gros pressing. À Lens, c'est pas du tout ce jeu-là qui est prôné par Francaise, c'est beaucoup de projection, du jeu en vitesse, et il faut être box-to-box quand on joue au poste de Spierings, c'est-à-dire pouvoir naviguer entre les deux surfaces, ce que faisait très bien Seko Fofana, ce que fera très bien Nampalis Mendy, mais ce que ne sait pas forcément faire Spierings, qui se projetait aux avant-postes que lorsque son équipe menait de 1 ou 2 buts, ce qui était quand même aussi très rare pour le TFC. Voilà, je pense que c'est une affaire de style de jeu. C'est très compliqué des fois de faire jouer certains types de joueurs dans un système qui ne leur convient pas. Donc Spierings peut-être aurait dû envisager un retour au pays plutôt que d'aller du côté de Lens. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir voulu tenter de passer un step avec une équipe qui, elle aussi, avait montré de très belles choses la saison dernière. Mais à mon avis, il aurait dû un petit peu mieux regarder les prestations proposées par les milieux de Francaise, parce parce que lui, Francaise, n'a rien changé à son équipe. Alors, pour l'instant, à Lens, ça ne porte pas ses fruits. Hein. Ils sont derniers ou avant-derniers du championnat. Ils vont arriver avec un cruel manque de confiance avec des champions. C'était peut-être pas ce cadre-là qu'il fallait à Spierings pour se développer. Une année de plus, et s'il était resté de son plein gré, ça aurait été beaucoup mieux pour la belle histoire.
Au final, on est plus sur un mauvais départ dans un club qui ne lui convenait pas forcément et un retour pour se sauver.
Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
C'est une bonne saison à venir avec le TFC pour partir ailleurs, peut-être au pays, comme vous l'avez dit, messieurs, et pour peut-être retourner au pays.
Voilà. L'idée, c'est qu'il manque aussi un milieu box-to-box, comme disait Corentin. En fait, Brecht, De Jagereux, c'était un peu le milieu box-to-box. Il y avait un trio qui était très complet. On avait un Branko van de Bomen qui était très distributeur, qui était très créateur, pas forcément hyper offensif. Par exemple, là, on a un profil maintenant, comme peut-être avec le retour de Skita, dont les supporters attendent beaucoup, parce qu'il est annoncé comme une pépite.
Spierings a marqué 15 buts l'année dernière.
Ouais, mais box to box, on le prend dans la notion d'être capable d'aller d'une zone à une autre très rapidement et d'être capable de multiplier les efforts. Ça, c'était pour moi, selon mon avis, c'était beaucoup plus le profil de Jagereux, qui en plus avait l'habitude des rencontres de haut niveau, parce qu'il a joué à un certain niveau en Ligue des Champions, même si ça n'a pas été extrêmement régulièrement. On n'est pas non plus sur un joueur de niveau Ligue des Champions. Mais voilà, comme je rejoins Corentin sur l'idée que ce n'était pas forcément le profil dont le TFC avait besoin. Et moi, je me demande de quel profil a besoin le TFC, parce que là où je ne suis pas forcément d'accord avec Corentin, c'est que le milieu n'est pas du tout construit au TFC. Le milieu, il est en pleine construction.
Peut-être que Spierings va être la pierre à l'édifice qui va permettre de remodeler tout ça avec son expérience.
Oui, mais là où je rejoins
qu'il a eu la dernière.
Quentin, pour le coup, c'est que comment tu veux construire sur un joueur qui est là que pour une saison. En fait, c'est le même principe qu'au PSG avec Mbappé.
Peut-être
va
se passer mieux après. Peut-être qu'il va rester au TFC finalement.
Oui, il n'y a pas d'option d'achat et le Lens a l'air de vouloir le garder, ou tout du moins. Pour l'instant, les premiers échos seraient soit on le garde, soit on le vend après si on arrive à en tenir quelque chose. Ouais, parce que je pense que Lens s'est vraiment rendu compte qu'il y a eu une erreur de casting pour le coup. Alors soit Hayes se réinvente complètement, ce qui me semble peu probable.
Peut-être qu'il ne va pas finir la saison à Lens d'ailleurs, vu comme c'est parti.
Oui, mais...
Non, ça si, il gardera son poste à Lens. Francaise, c'est un des seuls coachs français qui a un statut de manager aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est directeur sportif. Et en même temps entraîneur, à Lens, on lui a donné les clés du camion et on ne va pas le virer comme ça. C'est un entraîneur qui a participé à faire ce que Lens est aujourd'hui. Et ils savent très bien que l'objectif, c'est faire top 3 en Ligue des Champions, soit aller en 8e de Ligue des Champions, soit aller en 8e ou en 16e de Ligue Europa dans les barrages, soit et en même temps finir top 10. Voilà, je pense que cette saison-là, c'est une saison de transition. Les Lensois le savent très bien qu'ils ne refiniront pas sur le podium cette année, peut-être même pas l'année d'après. Ce qu'ils veulent, c'est de la stabilité après avoir passé 10 ans en Ligue 2, voire même un petit peu plus. Francaise n'est pas menacé, sauf si, bien sûr, d'ici 10 journées, Lens est toujours lanterne rouge. Mais ça m'étonnerait, il manque un petit peu de réussite. Il y a eu quelques faits d'arbitrage aussi qui font que Lens a laissé passer quelques points, notamment face à Brest, il me semble, sur les premiers.
Oui, sur un match assez discutable, oui.
Voilà, c'est ça. Et ça peut vous lancer une saison aussi, hein, parce que s'ils gagnent ce match-là, peut-être que les autres, ils ne les perdent pas. Donc, et qu'on ne serait pas en train de faire un débat parallèle pour savoir si Francaise doit rester à Lens ou pas.
Et donc, le retour de Steve Spiering sera plutôt une affaire à suivre plutôt que de se poser tout de suite si c'est vraiment une bonne nouvelle pour le TFC. Affaire à suivre, donc, et bien évidemment, on la vivra ensemble sur Radio Présence. Tout de suite, il y a une chronique, me semble-t-il, dans cette émission.
Esprit Sport, la chronique.
Et la chronique d'aujourd'hui, c'est Corentin qui s'y colle. Et Corentin, vous nous parlez là aussi, encore une nouvelle fois, d'une belle initiative.
Oui, après la chronique plutôt portée sur l'écologie de la semaine dernière, on va parler d'inclusion. Et ce qui est bien, c'est que cette chronique, elle va faire écho avec l'interview d'Arthur Chazel que nous avons reçu la semaine passée. Arthur qui était venu nous présenter sa tablette développée par la start-up Touch2See, qui vise à rendre les stades plus accessibles pour les personnes déficientes visuelles. Si jamais vous n'avez pas pu écouter cette interview, eh bien elle est quand même disponible en podcast, on vous invite à l'écouter. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre dispositif destiné aux personnes aveugles et déficientes visuelles, il s'agit de l'audiodescription. Alors, l'audiodescription, c'est un système permettant aux personnes atteintes de déficiences visuelles de pouvoir suivre le plus fidèlement possible des films, des événements culturels ou sportifs, par le biais de commentaires audio qui permettent à l'usager de connaître certains détails. Ça peut être les décors, les personnages, la gestuelle, l'ambiance, ainsi que de mieux se représenter une scène et donc vivre une expérience plus immersive. Appliqué au sport, cela fait que, grâce à des commentaires très poussés, on peut retrouver ces commentaires plus poussés qu'à la télévision ou qu'à la radio. Les commentateurs vont donner des précisions, le sens du jeu, l'intensité de l'action, les attitudes, l'ambiance, apporter aussi des précisions au niveau des règles. Quand l'arbitre va décider d'une certaine faute, d'une couleur de carton, on va pouvoir aussi apporter la précision sur l'intensité du geste, pourquoi le déroulé de l'action a amené à cette faute, par exemple. C'est un dispositif qui est par contre quasi exclusif au stade qu'ils les mettent en place. On ne trouve pas encore de moyen, de canal de diffusion pour les publics qui se trouvent à distance. C'est là que l'inclusion s'arrête. Mais l'initiative de base, c'était de permettre justement aux personnes déficientes visuelles et aux personnes aveugles de pouvoir se rendre dans un stade. Certaines qui ont profité de cette expérience mettaient même les pieds dans une enceinte pour la première fois. Il faut saluer la mise en avant de ce dispositif. Mais l'audiodescription, ce n'est pas destiné qu'aux personnes aveugles ou aux personnes en situation de handicap. Cela peut être aussi utilisé comme un outil de vulgarisation du sport. En cette période de Coupe du Monde, il y a beaucoup de personnes qui vont dans les stades, qui se sont vues peut-être offrir des places, déjà qui ont eu la chance d'en obtenir,
oui.
Et qui vont peut-être se retrouver à regarder un match de rugby sans connaître forcément les règles ou sans pouvoir comprendre tout ce qui s'y passe.
On pense notamment à la nouvelle règle du bunker. On voit un carton jaune et l'arbitre qui fait une croix avec les bras. Rapidement, est-ce que quelqu'un, soit Corentin, soit Aaron, vous pouvez nous expliquer?
Corentin, si tu veux.
Oui, c'est sa chronique. On le coupe
Je peux l'expliquer. Bon, en gros, si un joueur est fautif donc d'un mauvais geste, en tout cas est sanctionné d'un carton jaune par l'arbitre de terrain, eh bien, il peut mettre les bras en croix au-dessus de sa tête, non pas pour faire écho à la chanson de Johnny, mais pour signaler donc le bunker. Et ce qui veut dire que le carton jaune va être compté pour 8 minutes. Et pendant ces 8 minutes, la vidéo est envoyée à un autre arbitre vidéo qui va juger de la gravité du geste. Et donc, soit le jaune est confirmé, soit cela devient un carton rouge et donc le joueur se retrouve exclu. Cela permet de aussi faire perdre moins de temps dans la prise de décision sur les terrains et de pouvoir aussi avoir un regard neuf sur une action qui pourrait être jugée litigieuse.
Et c'est ce genre d'explication qu'on peut avoir droit donc avec l'audio description.
Tout à fait. Et donc à Toulouse, on a la chance d'avoir l'audiodescription déjà pour les matchs qui sont mis en place pour la Coupe du Monde, mais aussi vous retrouvez l'audiodescription pour les matchs de club, donc du TFC, du Stade Toulousain, du TO13, du Phoenix Toulouse Handball, ainsi que du Blagnac Rugby Féminin. Et on peut vous donner aussi une petite visibilité sur ce qui se fait en Occitanie avec le Castres Olympique qui a fait quelques expérimentations sur ce dispositif la saison passée en top 14, ce qui montre que petit à petit, cette pratique s'étend sur notre territoire et c'est à saluer. Ce qui est super avec cet outil, c'est qu'il peut fonctionner de pair avec l'innovation que nous a présenté Arthur Chazelle la semaine dernière, la tablette Touch2See. Et donc, même si tous les stades ne proposent pas actuellement l'audiodescription et ne proposent pas encore la solution que propose Touch2See, on espère quand même qu'une dynamique va prendre place sur tout le pays pour rendre les événements plus accessibles. On pense notamment grandement aux Jeux de Paris 2024.
Eh bien, merci Corentin pour cette description, cette audio description, parce qu'on reste à la radio. Voilà, ça donne envie d'aller même dans des sports où on comprend pas forcément les règles. En tout cas, ça peut être servir d'appui, comme vous l'avez précisé dans votre chronique. C'est la première de l'année, non, Corentin?
C'est la première de l'année.
Eh bien voilà, le challenge est passé. Bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, comment on fait pour retrouver un petit peu plus d'infos sur cette audio description?
Alors, soit vous allez sur les sites des clubs, que ce soit le TFC ou le Stade Toulousain, qui font des descriptions très détaillées pour savoir comment accéder. Sinon, vous avez une page qui est dédiée également sur le site de Toulouse Métropole pour retrouver les informations.
Voilà, et ça permet aussi à ceux qui sont en région de pouvoir peut-être en parler autour de vous et peut-être même venir à Toulouse si vous êtes un passionné de rugby. Tout de suite, c'est un petit peu le moment bon plan, le moment pronostic qu'on écoute tout de suite. Alors même s'il y a eu quelques coquilles il y a quelques semaines, notamment avec un Erwan qui nous a pronostiqué un 3-0 net et sans bavure entre France-Allemagne, finalement les Bleus sont inclinés. Félicitations Erwan.
Et oui, j'avoue que sur le coup j'ai pas eu le nez fin.
Moitié assumé. Là, tout de suite, un match que je vous propose de pronostiquer. Alors vous allez voir, c'est pas si simple. France-Namibie, c'est jeudi à 21h. À Marseille, c'est toujours dans le cadre de cette Coupe du Monde de rugby, le troisième match des Bleus face à une nation, ma foi, somme toute abordable. Erwan, tout tout de suite, regardez, vous avez top départ 30 secondes pour nous donner vos arguments et votre pronostic à 5 points près. Est-ce que vous êtes prêt, Erwan ?
Je suis prêt.
Eh bien écoutez, regardez, 3, 2, 1, c'est parti.
Moi je pense qu'il va y avoir à peu près 65 à 8. Je donne quand même un essai pour les Namibiens parce que notamment ils ont été pas mal portés par le public. Alors là forcément ils vont jouer contre la France, donc ça va être très compliqué. Mais je pense quand même que de manière générale il va y avoir un peu une espèce d'élan populaire. Ça va être une véritable fête au Vélodrome. Mais il faut quand même avouer que les Namibiens, c'est peut-être avec la Roumanie l'équipe la plus faible du mondial. C'est une équipe qui a joué quasiment toutes les Coupes du Monde mais qui n'a jamais gagné un match de Coupe du Monde. C'est vraiment particulier, donc voilà, je vois les Bleus s'imposer très largement.
Voilà, c'est terminé en 30 secondes. Donc 65 à 8, on aura résumé donc ça, un match complet pour les Bleus, mais avec quand même un petit trou et un essai namibien. Pour l'instant, les Namibiens ont pris une Fanny au dernier match contre la Nouvelle-Zélande. Donc on verra si les Bleus vont un petit peu contre l'Italie aussi, il me semble.
Non,
ils ont mis un point.
Ils ont mis des points. Ouais, qu'ils ont mis, une même pénalité. Contre les All Blacks, il me semble qu'ils ont mis une pénalité ou deux pénalités. Oui, il me semble qu'ils ont mis deux pénalités contre les All Blacks.
Une pénalité, ouais, trois points.
D'accord. Donc j'étais au match, mais j'étais déconnecté complet. Merci d'être là, messieurs. Corentin, est-ce que vous êtes prêt ?
Prêt.
Eh bien, écoutez, vous avez 30 secondes pour vous justifier et nous donner votre pronostic.
Alors, pour moi, la France va s'imposer. Bien sûr, c'est logique. Sur le score, donc je vois plutôt 70 à 10. Je vois bien les Namibiens marquer un essai également. Mais c'est une équipe de France qui va venir avec un esprit de revanche parce que les remplaçants ont failli lors du dernier match. Les titulaires, les joueurs premium, comme les appelle Fabien Galthié, seront sur le terrain. Et à mon avis, là, on va avoir un festival, notamment avec Damien Penaud. Et je le souhaite aussi également pour Louis Biel-Biarré. Je pense que j'en finis deux secondes avant le top.
Et c'est terminé, voilà, vous avez donné donc vos 30 secondes, donc on est sur un 65 à 8 pour Erwan, 70 à 10 pour Corentin. Eh bien écoutez, si jamais vous voulez un petit peu frimer auprès de vos collègues ou auprès de votre famille, vous pouvez dire, vous allez voir le score, c'est tel ou tel avec les arguments que ces deux messieurs viennent de vous donner à l'instant. Voilà, ça finit un petit peu, ça clôture un petit peu cette émission. Merci d'avoir été avec nous, Erwan.
Merci.
On vous retrouve la semaine prochaine ?
Exactement, toujours au poste.
Toujours au poste, et ça, c'est beau. Corentin, la semaine prochaine, là aussi, évidemment, présent toujours pour une nouvelle émission.
Bien sûr, bien sûr.
Esprit Sport, c'est toutes les semaines. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que la semaine prochaine, nous recevrons Jean-Claude Dardelet qui nous parlera un petit peu de cette attractivité autour de la Coupe du Monde. Ce qu'a mis en place Toulouse Métropole, on le recevra en direct dans Esprit Sport. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On aura donc le plaisir de se retrouver dans quelques semaines, toujours pour vous accompagner une heure de sport. C'est toutes les semaines à retrouver, évidemment, sur les applications de réécoute Google Podcast. Notamment, très bonne journée à tous et on se retrouve la semaine prochaine.